Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Que serait la danse sans musique et la musique sans la danse? Ah, ça c'est une putain de bonne question, comme disait Gérard Depardieu dans Rive droite, rive gauche. Et des putains de bonnes questions, oncle Antoine, il en a plein en stock et il va encore le prouver avec Blanque Cali, cette chorégraphe, danseuse, réalisatrice et directrice d'exposition, bref, cette icône pop. D'ailleurs, pourquoi les Daft Punk ont-ils fait appel à elle pour chorégraphier leur légendaire titre Around the World? Bonne question. Et savait-il que le titre serait prémonitoire? Putain de bonne question. S'agit-il en réalité sous les casques d'Alain Souchon et de Laurent Voulzy? Ah, moins bonne question, me signale-t-on en régie. Mais c'est pas grave, j'élèverai le débat tout à l'heure avec Blanque Cali et tout de suite avec le chanteur Rover. D'ailleurs, n'est-ce pas étrange de porter le nom d'une marque de voiture quand on est chanteur? Ah, voilà une putain de bonne question. Et que donne Rover qui écoute du Rover dans une Rover? Ça, c'est une putain de bonne question aussi. Allez, ce nouveau maxi Best Pop est lancé et sur les chapeaux de roue.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Aujourd'hui, je suis l'invité d'Antoine de Cosne et je m'en réjouis.
Nous en réjouissons tous les deux. Qu'est-ce qui vous réjouit d'être notre invité aujourd'hui?
Je pense d'abord le plaisir de vous rencontrer, vraiment, pour la deuxième fois dans ma vie. Ouais. Et puis de venir dans cette belle maison de la radio. Je le dis sans
dégagerie.
Oui, non, c'est un vrai plaisir. C'est une chance de venir parler de sa musique, de venir écouter d'autres musiques. J'ai le bonheur de venir à Paris. Je suis beaucoup à Bruxelles, donc arriver à Paris a toujours un sens de la fête, un sens de l'excitation qui vient dans le Thalys.
Et j'ai rejeté, alors moi, c'est ce que je ressens quand je vais à Bruxelles.
Oui.
Je le sens moins d'arrivant à Paris. Mais
ça si m'est passé un peu moi. Mais ouais. Non, j'ai toujours ce bonheur aussi, mais je sais pas. On sent quand les vibrations sont, ouais. Les planètes s'alignent. Et là, je sens qu'on est entre de bonnes mains.
Donc vous allez bien.
Je vais bien, oui.
Bien, c'est un bon démarrage. Alors Rover, aujourd'hui vous venez donc nous parler de Eskeller, eh bien il est 16h09, votre troisième album qui signifie cave à glace en allemand, un nom choisi pour sa phonétique, et ben pour le reste nous allons en parler dans un instant. Pour le moment on écoute un extrait de cet album avec ce morceau d'ouverture, To This Tree.
Somehow all this nonsense races go home.
Free, c'est un morceau signé Rover, notre invité dans Pop 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 aujourd'hui, et c'est l'ouverture de son troisième et excellent album, Eskeller, et il est 16h13. Ce qui frappe, c'est le côté intemporel, mon cher Rover, de votre musique en général. Et vous avez cette volonté, j'irais même jusqu'à dire cette ambition, de faire une musique qui résiste au temps.
C'est vrai. De plus en plus, j'en suis le témoin moi-même. Je ne sais pas si c'était conscient au début. Ça l'est devenu en tout cas. J'ai vraiment une envie de faire en sorte. Moi, j'ai une.
Comment est-ce qu'on juge de ça?
Je ne sais pas. C'est compliqué. Je pense que c'est une grande part des décisions artistiques appartiennent à cet instant où on choisit quelque chose qui s'imprime dans le temps et dans notre époque, où on fait le deuil de vouloir être à la mode ou d'être peut-être avant-gardiste à un endroit, et puis on s'équipe d'outils qui ont une intemporalité, c'est-à-dire le choix des instruments, le choix de nos références aussi. Moi, mes références sont toutes assumées. Je préfère le son des batteries des années 70 que ceux des années 90 à un endroit. Mais peut-être que mes goûts vont changer. Peut-être que les choses deviennent classiques avec le temps.
Mais on vit une époque où la musique s'est considérablement industrialisée. Hein. C'est un euphémisme. Mmh. Vous savez que l'artisanat, c'est la première entreprise de France.
J'ignorais, j'ignorais.
J'ai appris en faisant.
C'est juste un scoop. Ce qui est sûr, c'est que moi, je me rends compte de plus.
Vous voulez pas rentrer dans ce moule industriel, dans ce processus de fabrication auquel aujourd'hui tout le monde se sommet de plus ou moins bonne grâce.
C'est très lié aux outils que l'on utilise. Moi, j'ai rien contre les ordinateurs, mais la diversité des options qu'offre un ordinateur empêche les accidents et empêche le hasard. En fin de compte, moi, je me rends compte que me mettre moins d'instruments me permet d'en créer des nouveaux en mélangeant deux. C'est ce qu'on faisait dans les années 70. Hein. Ouais, tout ce qu'on aime en musique est né de hasard et d'accidents. Donc, le fait de rendre les choses plus difficiles, les rendre plus simples, bizarrement.
La pop culture, vous baignez littéralement dedans, Rover, parce que vous citez souvent, vous venez de le faire encore à l'instant, les Beatles, les Beach Boys, Dylan, Bowie, Lou Reed, Gainsbourg. À quel moment la musique a-t-elle cessé de vous parler aussi directement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une bascule, un moment où vous avez dit hop, après ça ne m'intéresse plus ou moins?
Ma première réponse spontanée, ce serait de dire que j'ai pas fini de creuser certains sillons qu'ont exploré les Beatles, les Beach Boys, même Bowie, à un endroit dans son excentricité. Peut-être parce que je suis un mauvais élève et je suis assez lent, en fait. Peut-être que certains y arriveraient en 24 heures. Moi, j'ai toujours ce même plaisir à réécouter les morceaux et à les sentir différents en fonction de où je les écoute et de sentir leur multi-reflet, leur boule à facettes, en tout cas. Je sais pas si c'est peut-être une histoire de lenteur, mais en tout cas, c'est un plaisir qui ne s'est pas essoufflé. Ouais. Donc, tant que j'ai pas quitté cette espèce de puits à inspiration et à bien-être dans l'écoute. Après, j'écoute des choses plus contemporaine évidemment, mais spontanément mon corps va mettre des vinyles, va mettre des chansons de...
Vous avez un rapport très particulier à vos disques, vous parlez même de paternité. Vous êtes extrêmement méticuleux, attentionné à leur égard, mais vous êtes aussi très admiratif des accidents. Par exemple, vous citez Nirvana, le solo de Kurt Cobain sur The Man Who Sold the World, souvenez-vous. Ce qui était ce qu'on appelle simplement un pain. Un pain au raisin, au chocolat, comme vous voulez. Une imperfection technique est devenue un élément à part entière du solo. Vous aimez donc quand ça, quand ça dérape?
Je dois être bizarre, mais moi je l'attends. Je l'attends, je sais quand il va arriver. Et à la fois il me fascine et me dérange. C'est irréproduisible, c'est inécrivable même sur une portée. Enfin, il y a quelque chose qui appartient à l'instant, à l'émotion qu'a vécu.
C'est un pain,
Un vrai pain. Et c'est noble, c'est de l'artisanat, le pain, la boulangerie, le... Voilà, ma blague du jour, ça serait celle-là. Moi, personnellement, je m'arrêterais là.
On est d'accord que l'absence de dérapage dans la musique aujourd'hui, ça chagrine finalement.
Alors moi c'est plus que ça me chagrine, c'est que j'en suis allergique. Je ne supporte plus de devoir percevoir la perfection informatique dans les disques. Après, il y a certaines musiques qui le supportent très bien, mais pour celles que je fais, c'est vouloir peindre à l'huile et me donner une souris pour le faire, le tableau. Non, il me faut de l'huile et une toile et un pinceau. C'est une histoire d'outils. Donc après, il faut remettre dans le contexte les choses. Je pense que pour moi, la perfection, mais ça m'appartient, elle réside dans l'imperfection. Ouais. C'est vraiment là, c'est comme ça que j'aime les gens, j'aime leurs défauts plutôt que ce qu'on dit de chez eux qui est sont leurs qualités. J'ai ça avec mes disques. Je me souviens de ce qui m'irritait au mix et des choses que j'ai pas pu refaire. En fin de compte, 3-4 ans après, c'est vraiment ce qui me plaît dans le morceau et ce qui en fait sa singularité.
Et c'est pour ça que dans Eskeller, 16h18 en l'occurrence, vous avez privilégié les instruments Ça y est, vous l'avez ?
Ça y est !
Ouais ! Ouais. Vous avez privilégié les instruments anciens ?
C'est les instruments anciens qui m'entourent. Ouais. C'est superbe. Non, encore une fois, c'est le choix des outils. Le lieu s'est prêté à pouvoir réunir enfin tous mes instruments qui étaient à droite, à gauche. Alors, j'avais des guitares chez des copains, des consoles qui étaient, quand on est en tournée, on est toujours sur les petites annonces. On sait qu'on va dans une région. Alors, on épluche la région pour acheter un Casio à 40€, un machin, des choses dont on se sert jamais. Là, j'ai pu tout mettre dans 300 mètres carrés. Je me suis retrouvé avec trop de matériel. Donc, j'en ai vendu la moitié parce que la moitié ne marchait pas. Mais je me suis rendu compte qu'il y a même que j'avais un attrait pour les instruments anciens. Effectivement, les vieilles guitares, les choses qui ont des âmes, et ça m'inspire, ça me nourrit, parce que certainement il y a une imperfection, il y a des égratignures dessus.
Et on va rentrer dans le détail de cette histoire de la fabrication de cet album et de ces instruments qui ont une âme, de ce studio si particulier. Ce sera dans un instant avec Charline Roux qui nous rejoindra juste après Wasted Love. C'est un autre extrait de ce troisième album.
Holding on to faded stories, I made my way for pain. Sorry's a wasted love, honey, a wasted love. I heard you say that things were falling out. Maybe all we need was talking. We wasted love, I'm a wasted love.
Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Et Charline Roux qui arrive d'ailleurs au volant de sa Tesla. Charline Roux qui n'a pas le permis, ça tombe bien, la voiture se conduit toute seule. Charline Rover.
Charline. Ça y est, on est parti sur un festival de blagues de type automoto.
Non, c'est fini. Rover, c'est fini, tout ça, c'est fini. C'est à vous.
En tout cas, je suis ravie, enfin un invité qui me permet de justifier de ma LV1. Donc, warum sprichst du Fließend Deutsch?
Oh, ich habe in Deutschland gelebt. Gewohnt.
Bon, je vous laisse.
Il a vécu en Allemagne, je voulais juste savoir pourquoi il parlait couramment allemand, en fait. C'est très important. C'est la seule phrase que je ferai. Hein.
Pareil.
C'est du Google Trad.
Moi, je connais que ça aussi.
Alors, prétexte fallacieux, hein, pour revenir sur le titre de cet album, à Eskeller, qui renvoie au lieu où vous avez enregistré dans une ancienne glacière, vous le disiez, une glacière bruxelloise. Pas le lieu le plus confortable, 250 mètres carrés enfouis sous terre. Faut pas être claustrophobe, faut pas être trop à l'affût de la lumière du jour, j'imagine. Comment vous êtes venu cette drôle d'idée? Et quel effet, vous parliez tout à l'heure d'imperfection, mais là en l'occurrence, ce déséquilibre a-t-il eu sur la tonalité de l'album?
Alors le hasard a fait que j'étais à un concert de krautrock à Bruxelles dans un bar, et après je discutais avec les musiciens, je leur disais que j'étais en pleine préparation d'un troisième disque et que je cherchais un lieu à Bruxelles. Ils m'ont parlé de ces glacières de Saint-Gilles, en fait, où il y avait des ateliers à vendre, à louer. Et j'en ai visité un le lendemain, et c'était le plus grand, le dernier qui restait. Et
250 mètres carrés.
250 mètres carrés. Immense pièce où on stockait donc réellement la glace, les pains de glace, comme ça, avant l'arrivée du frigo chez les gens. Et c'était donc une pièce très industrielle. Quel impact ça a eu? Je pense que j'ai mis 6 mois à comprendre à quel point ma démarche était à la fois absurde et très importante pour moi. Là, c'est plus d'un point de vue personnel en tant que homme de 40 ans, en tant qu'artiste. C'est de se retrouver dans un lieu qui est plus fort que moi, plus grand, où l'ego s'en va, l'internet s'en va, le téléphone s'en va, tout s'en va. Il reste mes instruments qui sont ce qu'ils sont et que j'aime énormément, mais avec qui j'ai tissé une relation au quotidien. Donc au début, c'était assez violent d'y aller, parce qu'il fait effectivement entre 8 et 10 degrés. Ouf. On n'y est pas bien, y a pas l'eau courante, y a deux prises qui grésillent, bon, voilà, y a trop de réverb. Il y a le temps pendant plusieurs mois de se poser plein de questions.
Et c'était pendant le confinement, c'est... Est-ce que vous avez vécu un enfermement au carré ou...
C'était à cheval. Alors, j'ai commencé avant le confinement, j'étais à la mode, et après tout le monde m'a rejoint dans cette espèce de...
Un précurseur.
Ce qui me stupéfie, Rover, c'est qu'on parle donc de cet endroit sous terre, 250 mètres carrés, un vide glacial, aucun réseau, pas de communication, et puis surtout solo, mais solo des deux côtés de la musique, devant et derrière la console.
Oui, mes deux premiers disques, il y avait toujours un ingé son en studio, et puis c'était des studios dits classiques où c'était fait pour enregistrer de la musique. Là, j'ai effectivement fait à la fois le travail d'ingé son, de même commander du matériel pour en construire mon home studio, ou en tout cas ce studio un peu éphémère. Tout était un peu sur des tréteaux, j'avais aussi envie de pouvoir plier assez rapidement, un peu une démarche presque artistique dès le début de pouvoir, j'allais dire, investir un lieu et puis faire un disque et m'en aller, le laisser comme il était. Donc oui, il y avait toute la technique à voir, et ça j'ai découvert. J'ai acheté 2 livres, j'ai rien compris. J'ai ouvert, c'était que des graphiques, de courbes, de sons. J'ai fait semblant. C'est qu'en allemand, évidemment, moi je dis que de l'allemand, donc dans la langue. Donc après, au bout de 2-3 terrasses où je faisais semblant de lire ces livres où j'ai rien compris, je m'y suis mis, j'ai essayé, je fais des essais, c'est les oreilles qui ont parlé, et ça a été très long par contre, mais je pense que j'en retiens autant de satisfaction d'avoir pu mettre les mains dans le moteur comme ça et de me déloger aussi en tant qu'artiste, c'est-à-dire que d'avoir fait tout ce travail en amont avant une prise de guitare me permet, je suis très bavard, mais c'est...
Mais est-ce que du coup le titre Cold and Tired qui figure sur l'album a valeur de témoignage?
Oui, c'est un petit peu. Ça aurait pu être le titre de l'album, clairement. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que ce titre, il a été fait tard le soir. Je travaille de temps en temps la nuit, mais pas tout le temps. Parce que d'abord, le lendemain, on est un zombie. Et puis, c'était un lieu assez effrayant le soir. Je le dis pas pour me faire passer pour un héros.
Non, mais j'imagine.
Il y a des courants d'air, il y a des bruits qu'on n'a pas envie d'entendre. Il y a des choses qui frappent à la porte. Alors comme c'est très grand, j'éclairais pas tout le lieu, et je mettais des lampes de chevet au sol, donc je faisais des puits de lumière selon les postes d'instruments, mais tout le reste de la pièce je m'en servais pas, donc je mettais juste un micro loin pour avoir une réverbe naturelle. Mais je sentais, quand je faisais des prises au casque, le micro prend tout, et il y avait 200 mètres carrés derrière moi, dans le noir absolu, en sous-sol, en fin fond de...
Et le paradoxe, c'est que cette musique est tout sauf froide et fatiguée.
Ouais, mais ça,
elle est au contraire chaude, intime.
Je le prends comme un compliment, parce que ça a été un témoignage de moi qui lutte aussi contre ce froid et cet aspect très austère du lieu. Je pense que j'étais le poêle à bois du lieu, quoi. C'est-à-dire que de faire de la musique qui mettait de la lumière m'a drivé, un endroit.
Et c'est donc un album dont vous dites que vous pouvez indifféremment et intégralement le jouer soit au piano, soit à la guitare.
Oui, moi j'ai... Ouais. Ça fait récit de prodige. Non, mais c'est pas
si courant. C'est pas si courant.
Et au violon et à la flûte. Oui, c'est vrai que c'est pas si courant. Je suis guitariste à la base, mais il y avait le luxe d'être autodidacte et de ne pas lire la musique, c'est d'aborder un instrument avec le plus de naïveté
sans complexe.
Oui. J'ai pas de référent, donc j'ai toujours l'impression d'être un virtuose au piano, alors que je fais 3 notes qui à la guitare, je les aurais très, sachant un peu mieux ce que je fais, assez vite censuré. Ouais, ouais. Donc le piano, je l'ai appris un peu plus tard. Donc j'ai une,
les fameux accidents.
Voilà. Donc ouais. Les doigts, on les met un peu n'importe où, enfin pas n'importe où quand même, mais on a une forme de liberté qui permet de ne pas censurer trop vite. Et le disque a été vraiment entre la guitare et le piano, et je m'amusais à les transposer, à les jouer sur les deux instruments pour le faire naître sous mes yeux avec les qualités que je peux avoir à la guitare et la naïveté que j'ai au piano.
Cet endroit où vous avez enregistré cet album, donc ces fameuses glacières, ça a été tour à tour un club de boxe semi-clandestin, une patinoire, une école de cirque, et donc finalement un studio d'enregistrement qui devait ressembler à quelque chose comme ça. Évidemment, plus ou moins, mais comment est-ce que vous avez transformé ce lieu hostile en studio? Comment est-ce que vous l'avez investi, cet endroit, pour
je rigole à moitié.
L'apprivoiser, j'ai envie de dire.
C'était un peu le son au début. Ouais. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de tuer cette réverbe naturelle qui m'a enchanté le jour où je suis arrivé. Je me suis dit, ça va être génial, tu vas voir les chœurs des Beach Boys. En fait, c'est une plaie, c'est pas un cadeau du tout, la réverbe. Vaut mieux ne pas en avoir et en rajouter, en effet. J'ai collé toutes les couvertures de déménagement que j'avais amenées avec moi en emballant le matériel, je les ai collées au mur pour tuer un peu le son. Alors ça faisait très joli, esthétiquement c'était très beau. Et puis j'ai trouvé un matin des panneaux acoustiques qui étaient complètement délabrés, qui sentaient la cigarette, qui étaient tout cassés. Je les ai réparés, j'ai mis ça autour de la batterie. Donc j'avais des espèces de ruses comme ça qui me permettaient de faire des foyers sonores où j'arrivais à peu près à maîtriser le son.
J'adore cette histoire. Vous avez donné de très mauvaises idées aux producteurs qui nous écoutent en ce moment, vous savez ça.
Mais de très bonnes aux jeunes gens qui ont envie de faire de la musique et qui ne savent pas où le faire. Absolument. A priori, débrouillez-vous. Ouais. C'est votre troisième album, le second, la titre Glow, était plus rock et, je cite, s'inspirer du monde du live et des concerts. Celui-ci est plus intime, plus proche de votre premier album, presque. Déjà un retour aux sources, dirait-on par raccourci. Comment est-ce que vous l'imaginez, celui-là, sur scène?
L'album de la maturité, non?
Oui, c'est ça, presque.
J'ai essayé de tirer ce fil un peu... Qui m'a guidé sur tout l'enregistrement, qui est le fait de faire plus avec moins. Donc c'est vraiment le fameux less is more en anglais, mais je pars sur la route avec simplement un batteur qui m'accompagne. On limite les choses à l'essentiel. Je sais que j'ai une vraie jouissance et un vrai confort à devoir chercher des solutions en live assez rapidement. Et puis ça laisse pas le choix quand on est que deux sur scène. J'ai remarqué qu'en fait on est au-delà de 100%, on est à 110%, à 100, on se donne à fond, on n'a pas le choix, sinon ça se voit. Ouais. Quand on est en groupe à 5, on peut passer une soirée où on fait un peu à moitié le boulot, ou pas que j'ai fait ça dans le passé, mais non,
c'est pas le genre,
pas du tout. Non, toujours focus, mais et du coup j'aime bien cette espèce de tension que ça crée à deux musiciens. On est aussi dans une fraternité assez évidente, en fait. On répète, tout va beaucoup plus vite. Et là on est très heureux. On a fait déjà quelques dates, c'est un vrai bonheur.
Escalaire, eh bien 16h31, c'est le titre du nouvel album de Rover, son troisième album qui est disponible et plus que recommandé, vous l'aurez compris, par Pop Pop Pop.
Le maxi best Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Merci Rover, ma hanche en titane et moi-même nous échauffons pour la séquence qui suit, la rencontre avec la chorégraphe qui me met des étoiles dans les yeux, Madame l'académicienne. Alors ici, vous le savez, nous parlons de pop culture et cette pop culture, vous la connaissez bien pour l'avoir chorégraphiée, nous le disions à l'instant avec Daft Punk, mais aussi Beyoncé, Coldplay, Blur, Kylie Minogue et plein d'autres encore. Qu'est-ce qu'on se dit par exemple le matin quand on va travailler avec une Beyoncé, Blancali?
Et c'est sûr que c'est impressionnant dans le sens que tu te dis, waouh, je dois faire danser Beyoncé. Mais le moment que je suis dans le studio, que j'arrive et que je commence des répétitions, et pour moi, c'est vraiment comme si j'étais avec un danseur ou quelqu'un que je dois vraiment travailler. Je me concentre sur le travail. Et d'ailleurs, ce qui vient, par exemple, avec Beyoncé, c'est qu'elle paraît, elle oublie qui elle est juste là pour travailler. Et on est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou à droite, à gauche. Et on travaille. Et en général, les grands stars comme ça, finalement, c'est des artistes qui travaillent beaucoup, qui sont très professionnels et quand ils travaillent vraiment. Donc on oublie vraiment pendant les moments de répétition. C'est un moment très intime, mais un vrai moment de travail.
Et vous diriez que c'est une élève plus douée que les autres, cette Beyoncé?
Elle est quand même, oui. Ça veut dire que travailler avec elle, c'est un grand plaisir parce qu'elle apprend très vite. elle sait exactement ce qu'elle veut, ce qui est important. Et après, quand elle est en plein tournage, et elle a une conscience de l'espace, de la lumière, de tout, incroyable. Vraiment, elle sait qu'est-ce que c'est de faire des vidéos.
Blanca, vos collabs ne s'arrêtent pas à la musique, parce que des réalisateurs prestigieux ont également fait appel à votre talent. Je pense à Pedro Almodovar, bien sûr, ou à Jean-Jacques Cano, pour ne citer que. Vos événements ont été vus à l'Opéra National de Paris, au Metropolitan à New York, en passant par le Musée Guggenheim de Bilbao, et vous avez travaillé avec des grands noms de la mode, comme Jean-Paul Gaultier, Azdine Alaïa, ou encore Stella McCartney, pour ne citer que. Qu'est-ce que ces créateurs, par exemple, les derniers que je viens de citer, viennent chercher chez Biancali?
Par exemple, le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier, c'était incroyable.
Pour moi, c'était
très émouvant parce que c'est ça, à chaque fois qu'un artiste me demande de faire une création pour eux, ça me touche beaucoup parce que quelque part, il met dans tes mains une responsabilité aussi de faire quelque chose à leur niveau. Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils ont vraiment la confiance en toi. Ouais. Et dans le cas de Jean-Paul, son dernier défilé, c'était vraiment une grande fête, et lui, il avait quelque chose en tête, il avait imaginé ça, donc il me racontait, et c'était à moi de faire son rêve, de les reproduire, mais en réalité, non? C'était un moment magnifique.
C'était magnifique.
Et un défilé inoubliable, on avait tout le monde, tous les mannequins, on a rigolé, mais il y avait derrière un vrai travail d'organisation, de répétition que j'ai dû faire, qui était dans la folie la plus totale, mais merveilleux vraiment de travailler avec Jean-Paul.
Mais quand même, Blanca, vous répondez pas à ma question. Qu'est-ce que ces créateurs viennent chercher chez vous de particulier?
Mais je pense qu'ils viennent justement partager un rêve avec moi, et ils espèrent que moi je peux mais en scène, est-ce qu'eux, ils sont dans leur tête. Donc, c'est ça qui est beau. Et moi, j'apprends beaucoup aussi avec eux. Parce qu'en me racontant leurs rêves, moi, je dois aussi me mettre à leur place. Et j'ai fait la création à travers leurs rêves, pas à travers mes rêves. Parce que quand j'ai fait mes créations à moi, je sais, c'est mes idées. Mais quand tu dois être au service de quelqu'un d'autre, c'est un travail différent et très enrichissant.
Ouais. Et vous dites que la danse est un langage universel, sans frontières, sans limites, dans la forme ou le style. Ça veut dire quoi? Que tout le monde peut danser et partout? Que la danse est un langage naturel?
Oui.
Y compris pour moi?
Pour tout le monde. Je pense, j'ai pas vu jamais une seule personne qui peut pas danser. Je pense que la danse est quelque chose qu'on a tous en nous, c'est naturel, c'est un plaisir. Après, il y a des gens qui sont plus timides, ou des gens qui se sentent pas très à l'aise, parce que souvent on a peur des regards des autres aussi. Ouais. Mais je connais personne qui n'a pas de plaisir, s'ils sont tout seuls avec la musique et à bouger. Même un petit enfant, tu lui mets la musique. C'est quelque chose qui est dans notre nature. Et donc, je pense que, après, bon, il y a des niveaux différents. Nous, on fait ça pour, c'est notre métier, donc on travaille, les corps, on va jusqu'au bout de tout ce qu'on peut faire. Mais moi, j'adore faire des projets où j'amène les gens à danser. Et parce que c'est pour moi un plaisir de partager ce que je sais faire avec les gens et de provoquer aussi qu'ils trouvent cette passion ou cette bonheur que moi j'ai tous les jours quand je danse.
Et puis la danse, c'est aussi quelque chose d'inscrit profondément dans la mémoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Marta C. González, une ancienne danseuse étoile qui a été atteinte par la maladie d'Alzheimer. C'est une danseuse qui avait présenté le célèbre Lac des Cygnes à New York en 67. Ben, 50 ans plus tard, cette danseuse qui avait perdu tous ses souvenirs en a retrouvé certains précieux en entendant ce morceau. Au point de reproduire la chorégraphie à la perfection depuis son fauteuil roulant.
J'avais vu les vidéos, c'était très émouvant. Et effectivement, quand nous on travaille en ballet, on doit répéter les mouvements tellement de fois jusqu'à que la mémoire s'imprègne complètement des mouvements. Pour pouvoir danser, il faut dépasser des heures et des heures et des heures de répétition, pour que ça, il y a comme une mécanique qui se passe tout seul, que le cerveau va intégrer tellement les pas qu'après on va trouver la liberté aussi d'interpréter ses pas et de danser librement. Et je pense que quand on a fait un ballet, moi j'ai dit aux danseurs, une fois qu'on a dansé un ballet beaucoup de fois, c'est comme monter un vélo, on n'oublie jamais. On écoute la musique et c'est pour ça, moi ça m'arrive des fois d'être dans un endroit ici, j'entends une musique que j'ai dansé beaucoup et je peux plus ni manger, ni... c'est comme si tout mon corps s'aimait. C'est très étrange. Hein.
Bah écoutez, j'espère que ça va être une des musiques qu'on a choisies pour aujourd'hui. Nous parlons du pouvoir universel de la danse, mais il y a également un pouvoir intergénérationnel à travers vos créations, Blanca Lee. Vous avez animé des ateliers de danse pour les enfants. Vous avez découvert que la danse leur apportait énormément. Elle leur permet de se valoriser en dehors de disciplines plus scolaires, dira-t-on. Il faudrait l'imposer au programme d'éducation, la danse.
Moi, je pense que c'est très important et c'est quelque chose que je voudrais faire, de l'académie. C'est une des choses que on voudrait, nous, les chorégraphes, transmettre. C'est peut-être qu'il y a plus de travail de la danse à partir de l'école parce que, effectivement, dans le travail que j'ai fait avec les enfants, je me suis rendu compte que des enfants qui, des fois, allaient pas très bien dans le groupe, qui allaient pas bien à l'école, quand on a commencé à faire des travaux et qu'il s'est trouvé qu'ils avaient, la facilité pour danser, qu'ils étaient bons, les autres élèves commencent à les admirer, à les voir autrement, et ça a déclenché, des fois, une amélioration dans les rapports entre eux, mais aussi par rapport à ces, autoestime, non?
D'estime de soi.
L'estime de soi. Et ça, c'est très important, parce que c'est quelque chose qu'on peut trouver par les mouvements. Et c'est très beau, ça. Ça te rassure beaucoup sur toi-même. Et après, dans les groupes, dans l'école, on peut trouver qu'un enfant va commencer à travailler beaucoup mieux et à se sentir mieux dans les groupes, surtout.
Danser, les enfants, danser. Nous allons en parler du pouvoir de la danse dans la suite de Pop Pop Pop, ensemble avec Charline Roux, qui nous rejoindra juste après Es el Amor. C'est un morceau du groupe Cannibal.
El Amor.
Lágrimas.
France Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux. Eh oui, vient d'arriver en tutu et ballerine. Charline Roux, par ailleurs, reine picarde du flamenco. Bonjour.
Bien sûr, Charline. C'est de chez moi le flamenco. Flamenco, je vois un truc dans le genre, mais pas. Bonjour.
Bonjour, Charline. Charline, le bal de Paris, qu'est-ce que c'est que ça?
Eh bien, le bal de Paris, ce n'est pas un spectacle. Non, c'est une expérience à laquelle le public est invité à participer. Chaque spectateur désireux de participer au bal est donc équipé d'un casque de réalité virtuelle, de capteurs et navigue en petits groupes entre les différents tableau de danser. Il doit même lui aussi esquisser quelques pas auprès des danseurs professionnels. Alors première question tout à fait intéressée, c'est pas pour moi, c'est pour Antoine. Le casque de réalité virtuelle rend-il bon danseur ou même la technologie ne peut rien pour les cas désespérés? Je dis ça parce que je l'ai vu danser en fait.
Ça aide beaucoup parce que moi j'ai remarqué que comme les gens sont dans les casques et qu'ils sont en avatar et qu'ils sont plus eux-mêmes, ils se libèrent beaucoup plus. Donc on a de très beaux danseurs dans les publics. On trouve des danseurs extraordinaires qui savent même pas que c'est des grands danseurs. Ça révèle.
Et ça vous donne envie de recruter de nouveaux danseurs peut-être? Non,
bah si, oui. Si.
Mais pour le coup, pour ce spectacle, le terme spectacle vivant n'a jamais été aussi adapté.
Oui, c'est très vivant.
Tout le monde doit y aller, tout le monde doit participer.
Oui, c'est ça qui est bien, c'est que même si on a la sensation que tout était technologique, à la fin, c'est presque low tech parce que on se trouve tous là en train de danser, on se prend par la main et on oublie, à un moment donné, on oublie qu'on est avec tout ça dans les corps et qu'on est dans un monde virtuel. Et c'est ça qui est drôle, de voir comment les gens se rendent dans l'expérience à tel point qu'ils sont là, comme si c'était dans le monde réel.
Blanca, la fusion, enfin le mélange entre la danse et la réalité virtuelle, c'en est vraiment au tout début. Hein. Je crois qu'il y a un chorégraphe suisse qui s'était intéressé à la question.
Oui.
Gilles Jobin, c'était en 2017. Est-ce qu'il y a un avenir, ou plutôt des perspectives nouvelles, absolument inévitables pour la danse dans cette passerelle entre le virtuel, le...
Moi, je dirais pas pour la danse, je dirais pour tous les spectacles vivants. C'est une nouvelle forme de création, en réalité. Ça peut être pour le cinéma aussi, parce qu'on pourrait imaginer des films où on est nous dedans avec les comédiens aussi. Ça pourrait être des pièces de théâtre où on est avec à l'intérieur du décor. Je pense que ça va jamais, bien sûr, remplacer les spectacles vivants. Je pense qu'il est quelque chose d'irremplaçable et unique à traverser toutes les civilisations. Mais c'est une nouvelle forme pour nous, les créateurs, quelque chose qu'on peut imaginer différemment. Et moi, ce qui m'a excité toujours dans la création, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui que quelqu'un comme moi n'aurait pas pu faire il y a 20 ans ou 30 ans. Et c'est ça que j'essaie toujours de m'imaginer, comment on peut trouver de nouvelles manières de création. Et celle-là, c'était pour moi vraiment quand j'ai vu... J'ai imaginé ce qu'on pourrait faire avec la réalité virtuelle. Je me suis lancé tout de suite dans cette folie, sans savoir si j'allais arriver au bout ou non. Mais bon.
Quand vous dites cette folie, c'est vraiment une folie. Parce que c'est 3 ans de travail pour un spectacle comme ça.
Oui. 3 ans très intenses. Et surtout, au départ, tout le monde me disait c'est impossible, technologiquement ça ne peut pas marcher. Enfin, j'avais pas beaucoup d'espoir, mais j'ai tenu, on a fait des petits tests, on a avancé, on a poussé les limites de la technologie et j'ai tenu très fort, je me suis accroché à mon idée et j'ai réussi.
Alors pour en revenir à l'intrigue de ce spectacle, Adèle est de retour à Paris et pour fêter ça, son père organise un grand bal masqué, enfin en l'occurrence un bal casqué. Vous avez donc créé l'intrigue et la musique avec Tao Gutiérrez, mais comment est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit « Allez, c'est bon, c'est la bonne création pour allier justement cette technologie avec la danse ?»
Tout a été très parallèle. Hein. J'avais d'abord une idée très claire de ce que je voulais et c'était venu quand j'ai fait mon premier film en réalité virtuelle où j'avais fait avec 20 danseurs dans une espèce de working space et j'avais fait la chorégraphie pour une personne qui a un casque de réalité virtuelle qui est au milieu et 20 danseurs qui dansaient autour. Et quand j'ai vu ma propre création et les danseurs qui venaient s'approcher, qui dansaient autour, j'ai eu une envie de les toucher. J'ai dit, c'est dommage qu'on ne peut pas se prendre la main. Et c'est là que tout a commencé. Je me suis dit, il faudrait qu'un jour on arrive à être dans le même espace, les publics, pas séparés par les casques, mais vraiment qu'on peut partager cet espace virtuel. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir. Et après, tout a été petit à petit, comme une évolution naturelle. J'écris d'abord un scénario de comment j'imaginais, un scénario qui était très, très concret de ce que j'ai cherché. Et après, je suis allé voir des studios qui travaillaient sur la réalité virtuelle pour leur dire, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à la réaliser? Et j'ai trouvé cet studio Backlight à Paris et qui m'ont dit, écoute, on va essayer. Et c'était un peu, on savait tous que c'était difficile, mais ouais. Eux, ils avaient déjà mis plusieurs personnes dans un même espace, donc ils se sont dit, on peut arriver, parce que je voulais qu'il y a plus de, je voulais que ça soit une fête, ouais. Donc il y a au moins 10, minimum 10 personnes ouais. avec les danseurs dans mmh. le même espace, qui fait quand même 13 personnes. Et ça, c'était la vraie difficulté. Donc, on a d'abord fait toute la recherche technologique pour arriver à avoir ces nombres de personnes dans mmh. l'espace. Et une fois qu'on a réussi ça, on a commencé à faire un petit pilote. Après, on montrait à des coproducteurs. Mmh. Après, on a fait des tests avec les robes qui bougent. Après, on a, et petit à petit, on a développé la narration. Après, j'ai mmh. écrit la musique et on a enregistré la musique. Après, j'ai fait la chorégraphie. La chorégraphie virtuelle, parce qu'il y a beaucoup de danseurs virtuels.
Justement, vos danseurs, comment est-ce qu'ils ont réagi quand vous leur avez proposé le projet?
Ils comprenaient rien. Donc j'ai dû les amener à venir voir les tests qu'on était en train de faire déjà pour comprendre. Et ils ont beaucoup rigolé les premiers jours et ils se sont tout de suite prêtés au jeu. Ouais. Mais le problème pour les danseurs, c'est qu'ils doivent danser. Ils sont très équipés quand même. Ils ont beaucoup de poids.
Oui, parce qu'eux aussi, ils ont tous les capteurs, le matériel pour pouvoir...
Oui, parce que pour que le public puisse les voir, et ils doivent être équipés eux-mêmes des capteurs, des backpacks. Ouais. Donc par exemple, quand on faisait les portées, il y a les ordinateurs dans les dos, tu n'arrives pas pour la fille. Après, quand tu fais une pirouette, tu es déstabilisé par les poids. Et ils se sont habitués. On a adapté la chorégraphie aussi à l'équipement. Et bon, ça c'est, tout s'est fait petit à petit. Hein,
mais rien qu'à vous écouter, à vous regarder, là, parler, Blanca. Non, mais vous avez une telle énergie. Monter un projet dingue, comme ça, comme le bal de Paris, passer 3 ans de votre vie dessus. Vous arrivez à entraîner tout le monde dans votre sillage. Quoi. Personne ne résiste.
Et il faut, hein, parce que sinon, c'est ça. C'est que je pense... j'étais tellement passionnée par cette histoire que finalement tout le monde me suivait. Mmh. Et c'est ça qui était génial. On était tous montés dans un bateau sans savoir si on allait arriver à port. Et moi, j'ai dit ça à tout le monde. J'ai dit, on va essayer. Et petit à petit, on avançait, on trouvait des solutions à beaucoup de problèmes. Ouais. Et l'équipement des gens, par exemple, au début, on voulait que ça soit tout sans câble. Ouais. Mais on a parlé aussi parce que ça crée des interférences. Ouais. Parce qu'en plus, j'ai pas fait une seule salle. Il y a 5 salles.
Il y a 5 salles.
Simultané. Oui, non, mais donc ça, il y a beaucoup de problèmes des Wi-Fi.
Le fameux bal de Paris qui va reprendre un bal virtuel, enfin qui mélange virtualité et danse.
Un spectacle immersif.
Ma chère Blanca, vous avez débarqué à New York à l'âge de 17 ans et puis vous avez découvert là que l'image, la danse, les arts plastiques, les arts visuels, tout cela était intimement lié et participait d'un même langage. On peut dire que Blanca Lee, c'est le résumé de tous ces croisements.
Oui, un peu quand même. J'ai toujours adoré les mélanges, de travailler avec d'autres artistes, de faire des choses différentes. Et pour ça, c'est vrai que New York, à l'époque, quand j'y arrivais, c'était un peu un melting pot où il y avait beaucoup d'artistes déjà dans le monde entier qui étaient là-bas. Ouais. Et on rigolait beaucoup. On s'aidait tous pour faire les choses. J'ai mes copains qui faisaient des films, ils m'aidaient à faire les spectacles, les musiciens, on faisait des shows, des graffitis. Tout s'est mélangé et c'était une bonne école pour moi.
Et c'est naturel pour vous?
Oui, c'est ma nature.
Ouais. C'est votre nature andalouse.
Et le bal de Paris, c'est un spectacle que vous chorégraphiez dans lequel tout le monde est invité à danser, tout le monde, sauf vous. Est-ce que c'est pas trop frustrant?
Mais non, pas du tout. Ah bon? Non. Je l'ai fait de temps en temps encore.
De temps en temps, oui.
Il y a au moins tous les 2 ou 3 jours, je me mets avec un groupe et je rigole beaucoup. J'adore. Et je me mets à danser comme une folle. Mais bon, il faut souvent que je sois dehors pour contrôler, surtout au début, parce qu'on vient de faire la première. Mais non, je l'ai fait. Je l'ai fait aussi. Je danse.
Enfin, vous n'êtes pas tous les spectacles.
Et jamais lâche.
On n'est pas sûr de tomber sur vous.
Oui, c'est ce qui est bien. Non, mais ce qui est bien, c'est que des fois, je l'ai fait. Comme j'ai un avatar, personne je sais que je suis dans les balles.
Et précisons aussi pour les spectatrices et les spectateurs les plus coquets, vous vous rendez à un bal, mais ne vous inquiétez pas quant au choix de la tenue adéquate, puisqu'une fois équipée, vous serez aussi habillée par Chanel. Voilà. Vous nous expliquez?
Oui, parce que quand j'imaginais les bals de Paris, et pour moi, c'est un petit peu comme les mythes de Paris, comment on rêve quand on est étranger. Qu'est-ce qu'on imagine de Paris, la ville des lumières, de la beauté, les chics, les glamour, la mode, je sais pas. Dans le monde entier, il y a toujours cette espèce d'image. Je me suis dit, c'est génial, les bals de Paris, c'est prêté à cette espèce de grande fête parisienne, et il fallait absolument qu'on soit très bien habillés. Mmh.
Ouais.
Et on adore tous s'habiller pour aller à un bal, non?
Mmh.
Et alors je me dis,
enfin, moi,
il faut que ça soit un vrai créateur. Mmh. Et ça, je pouvais pas faire ça par des designers 3D qui font des vidéojeux, parce que ça sera des robes un peu...
Ouais.
Non, je voulais des vraies robes, des robes d'haute couture magnifiques. Donc, je suis allée parler avec Chanel et ils m'ont dit oui. J'étais tellement contente. Ils ont dessiné toutes les robes. Donc, chaque avatar qu'on choisit, on peut essayer plein de robes parce qu'on a le temps. Ouais. Et c'est des robes de Chanel merveilleuses. Comme ça, on est tous beaux.
On est tous beaux. Mais alors, on parlait d'avatar parce que chacun choisit aussi son animal de référence. Ça peut être un lapin, ça peut être un cerf, ça peut être un hibou. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un bal masqué à l'ancienne. Vous-même, par exemple, Blanca, c'est quoi votre animal totem?
J'ai essayé tous les personnages, mais j'aime bien, il y a la zèbre qui est très drôle. J'aime bien la zèbre.
Ah, c'est le même choix que Simon Arestat, attaché de production.
Qui est allé voir le spectacle.
Il y a un animal qui est exclu, par exemple. On peut être un serpent ou pas?
Ah, j'ai pas de serpent.
Bon, ouais, ça me rassure.
Mais j'ai les grenouilles.
Ah ben, une grenouille,
c'est pour vous, ça. Très bien. Petite grenouille. Et la réalité virtuelle permet des décors aussi somptueux que multiples. Hein. Comment est-ce que vous avez choisi votre salle de bal? Je crois qu'il y a aussi un bateau. Comment est-ce qu'on tranche entre l'infinité des possibilités?
Et j'ai préparé déjà un scénario très précis avec beaucoup de photos, toutes les images, comment j'ai rêvé cet espace. Et j'ai travaillé avec Vincent Chassal, qui est mon directeur artistique, qui est un graphiste merveilleux, qui travaille avec moi depuis beaucoup d'années. Il a fait énormément de choses avec moi dans mes spectacles et tout. Et tous les deux, on définissait, disons, les univers. Lui, après, il faisait comme des premiers planches en 3D où on voyait, on pouvait plus ou moins déjà rentrer. Et après, on travaillait avec Backlight, que eux, ils amenaient ça dans le monde virtuel pour qu'on pouvait se déplacer dedans. Donc, il y avait comme plusieurs phases. Mais c'était pour moi très clair dès le départ, les univers. Je savais qu'il allait avoir un bateau, que je voulais faire un ballet aquatique, qu'il y avait les grands bals, qu'il y avait les petits cabarets parisiens. Mmh. Enfin, tout était vraiment déjà à l'écriture. Et après, il fallait juste créer tous ces univers pour que les gens puissent se promener. Parce que après, on fait ce qu'on veut à l'intérieur.
Oui.
Parce que pour chaque représentation, 50 spectateurs scindés en groupes de 10, chaque groupe avec deux danseurs, chaque groupe évolue dans des espaces en simultané. Est-ce que ça a été un vrai casse-tête logistique ou est-ce que tout s'est déroulé dans une totale fluidité?
Non. Ça a été tellement, tellement compliqué qu'il y a eu pas mal de fois où on a... Ouf, on était à la limite de dire on peut pas. Mmh. Et moi, à chaque fois, j'ai dit non, il doit avoir une manière. Et vraiment, c'était techniquement limite impossible, vraiment limite. Et je pense que c'est la faute à personne, c'est juste que on est trop tôt peut-être pour cette technologie qui est un peu à l'état primitif, on peut dire. Que probablement, ce que moi j'ai fait, qui a été tellement difficile, dans un an ou deux, ça sera super facile à faire.
Ouais.
Parce que c'est en train d'évoluer très vite. Et nous, on est tous câblés avec des ordinateurs dans les dos. Et je pense que dans peut-être pas longtemps, on serait tous avec simplement un casque connecté par Wi-Fi. On n'aura plus rien de tout. Et je sais que beaucoup de gens travaillent sur cette nouvelle possibilité, mais qui n'est pas encore arrivée. Donc moi, je devais ou bien... rester dans cette espèce de technologie primitive avec plein de câbles où j'arrivais pas à avoir mon rêve. Donc j'ai décidé, j'y vais comme ça. Et après, quand ça va changer, nous, on va s'adapter, on va faire évoluer.
Vous l'avez bien compris, hein, pop-opiennes et pop-opiens qui nous écoutez. Vous allez à ce spectacle et vous faites partie du spectacle, vous rentrez dans le spectacle, vous devenez vous-même, au milieu des danseurs de Blancali, un des protagonistes.
Vous en rêvez, hein?
Ah, bah évidemment que j'en rêve, puis je vais le faire. Je vous annonce.
Est-ce que je peux y aller en même temps que vous? Pour le plaisir de la danse,
prenez
pour
quoi,
vous voir
quoi comme animal,
le lapin.
Le lapin.
Ah,
le
lapin.
La grenouille. Le lapin, la grenouille, ce sera nous. Vous pouvez pas nous rater.
La fontaine, nous voilà.
Ouais, je suis toujours frappé, Blanca, quand je me penche sur votre histoire, par la fluidité qu'il y a vraiment. Et je parle pas seulement de danse, dans toute votre approche des choses, votre philosophie de l'existence. Est-ce que ça vient, ça, de... cette Andalousie où vous êtes né, où les gens se mélangent facilement, où il y a un esprit ludique, festif, permanent?
Enfin, c'est peut-être un cliché, pardonnez-moi.
Non, non, c'est pas du tout un cliché. Et moi qui habite maintenant en France depuis beaucoup, beaucoup d'années, je retourne très souvent en Espagne parce qu'il y a ma famille et mes copains. Donc, je suis maintenant française autant que je suis espagnole et espagnole autant que française. Et j'adore cette double culture qui est merveilleuse. Mais c'est vrai que quand j'arrive en Espagne, à chaque fois, je dis donc, ici, ça va, la fête, c'est tout de suite, ça prend deux secondes. C'est quelque chose qui est vraiment dans notre culture. Hein. Et quand on est petit, moi je sais que chez nous, on faisait la fête tout le temps. Tout était une bonne excuse pour faire une fête. Chez moi, c'était c'est l'anniversaire, la fête. Tu as eu les bonnes notes à l'école, c'était la fête. Tu vois, on invente tout de suite une excuse pour faire la fête parce qu'on adore. Et même si c'est un peu cliché de le dire, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, dans ma famille, et on avait un esprit festif incroyable.
Le Maxi Best Pop Pop Pop, Antoine Decaune.
Et on remercie Blancali. Et moi, j'ai l'impression d'avoir dansé sans avoir bougé de ma chaise. Étrange, hein, comme sensation. Mais vous aussi, amis auditeurs, vous pouvez tester. Pour vous aider, je vous mets un morceau du rappeur Corday, C. Carter. Et c'est parti.
Yeah. Ladies and gentlemen, boys and girls, I need y'all to just rock with me. Yeah, I used to dream about a Dodge Charger. Suicide dough, sitting on 24s. I was trying to find a job and shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house, watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Hey, I used to dream about a new Hummer. Back when good music dropped Cruel Summer. Back when niggas wondered if I do numbers. Check the stats, boy, a nigga doing huge numbers. Got this dime piece sucking on my cucumber. I ain't doing too bad for a newcomer. This life shit gave me scars with a bruise under. Certain shit don't make you wonder. But that's a part of the game. We call life, love is hard to attain. My little brother drive a Jeep and I just bought him a chain. A real nigga, what I'm is and what I always remain. But this bitch temptation keep calling my name. I wrote this song in LA, I was driving my Benz. Thinking about this road I'm on to acquire ends. I'm a fucking outlier, I retire these trends. Niggas told me I was stupid just for hiring friends. I used to dream about a Dodge Charger. Suicide though, sitting on 24s. I was trying to find a job and shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house, watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Okay, listen to these proverbs, the odd words we call rap music. That took me all across the globe, watch people react to it. Figments of imagination, couldn't fathom elation. Indescribable with words, so I'll go illustrate it. Illustrious rhyme.
C'était C. Carter de Corday, et voilà, c'est sur ce son que s'achève ce numéro de Pop 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 consacré à la danse et à la musique avec Blancali et Rover. Et je vous invite à aller découvrir l'univers fascinant de Blancali et à vous plonger dans Escalaire, le dernier album de Rover. Escalaire, mais oui, celle de se quitter déjà et sur une bonne blague. Demain, c'est un concentré de Pop 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 que je vous propose et en réécoutant les émissions de Catherine Meurice et d'Albin de la Simone.